Je crois que j'ai vu notre frère Ludovic ce matin. Est-ce qu'il est là, Ludo? Il est là-haut? Bon, du coup, voilà, il y a Ludo là-haut. Est-ce que vous voyez à peu près la stature de Ludo, physiquement? Voilà, bien. Alors, c'est vrai que les petits sont partis. Ah ben non, du coup, il en reste un, là. T'es pas si petit que ça, mais je pense peut-être que tu es le plus petit de la salle, à moins qu'on ait un tout petit, là, encore, qui va pas forcément vouloir se prêter au jeu. Mais parmi ceux qui ont montré, ceux qui ont une grande taille, il y a Vincent qui a levé la main, là. Est-ce que tu peux te mettre debout, Vincent, s'il te plaît? Voilà, Vincent. Voilà, alors, on a Vincent, là, il y a Evan. Tu peux te mettre à côté de Vincent pour voir, là-bas, s'il te plaît? Tu vois Vincent, voilà. Ouais, mettez-vous côte à côte. Ah, il y avait plus petit que Evan, mais Evan, lui, il va se déplacer. Evan, il n'a pas peur de Vincent, là. Voilà, tout le monde peut les voir. Voilà, Vincent, là. Ah, puis, c'est vrai qu'avec le temps qui passe, un peu comme nous tous, Vincent, il, malgré sa taille... Non, tu ne te tasses pas, Vincent? Non. Merci pour l'illustration différence de taille. Ce matin, je voulais vous emmener dans 1 Samuel 17, avec une histoire que nous connaissons... À moins que vous ayez fait quelques années de coma les dernières années, ou, voilà, vous devez normalement connaître cette histoire. C'est un petit, un pas très grand, quand même, un berger, qui affrontait régulièrement des bêtes féroces pour protéger ses troupeaux, qui va aller s'avancer pour combattre un géant. On connaît tous cette histoire. Seul dans la vallée, face au terrible Goliath. Et puis, alors, on a tous notre interprétation de cette histoire, en fait, cette illustration dans notre tête. On imagine la vallée, on imagine à quoi ça ressemble. On est du côté, là, bon, on espère qu'on est du côté de l'armée d'Israël, qui est, s'il y en a qui se mettent du côté des Philistins, levez la main, vous osez pas. Voilà, il y a les Philistins en face, et comme c'était de coutume à cette époque, bah, parfois on envoyait son champion pour défier, ça évitait des dizaines de milliers de morts et ça permettait de régler la bataille en disant ben voilà, votre champion vient contre notre champion et puis on joue ça comme ça. Alors Israël se fait régulièrement haranguer, se fait insulter, le nom de l'Éternel est insulté et puis ben, plusieurs fois le terrible Goliath arrive, c'est le champion. On connaît cette histoire. Le roi Saül, lui, il est dans sa tente et il espère qu'un champion va se lever de son côté, du côté de son équipe. Il y en a un qui n'était pas prévu d'être présent. Il est venu juste pour apporter de la nourriture à ses frères. Et puis, il dit, ben, moi, je l'ai entendu, lui, là, qui insulte le nom de l'Éternel en face. Ben, moi, je vais y aller. Alors, on essaye, vous vous rappelez, de l'équiper pour pouvoir combattre avec des armes qu'il n'a pas eu l'habitude d'utiliser. En plus, on lui donne l'armure de Saül. Voilà, donc on imagine cette scène avec le casque qui déborde sur la figure, toutes les protections qui sont trop lourdes à porter pour le jeune berger. Et la suite, on la connaît. Il va aller descendre dans la vallée vers le ruisseau et ramasser des cailloux. Au verset 40, l'Écriture nous dit qu'il a choisi dans le torrent 5 pierres polies. Et moi, ma question ce matin, c'est si David avait une foi aussi inébranlable dans son Dieu, pourquoi est-ce qu'il a choisi 5 cailloux? Avait-il le temps, aurait-il eu le temps de réarmer si son coup avait manqué? Doutait-il de sa précision? Avait-il peur de rater sa cible? On se dit parfois que notre foi nous permettrait de pouvoir affronter les difficultés, les bras croisés. Je ferme les yeux, j'attends, mais j'ai la foi, le Seigneur va me protéger. Et on attend un miracle. Ce geste de David nous montre que la foi n'exclut ni la sagesse, ni la préparation. Au-delà de l'aspect logistique de notre berger, le berger David, ce choix cache une réalité que toute l'Écriture peut mettre en lumière. Ce matin, nous allons découvrir que si un seul caillou a suffi ce jour-là, grâce à la souveraineté absolue de Dieu, les 4 autres n'ont pas été ramassés en vain. À travers l'histoire de ces 5 cailloux, dont 4 sont restés inactifs, La Bible nous dépeint une image assez saisissante des différents visages que prend l'adversité, mais surtout elle nous révèle à l'avance la victoire totale de Jésus-Christ. Pour comprendre le geste de David, il faut feuilleter un peu la Bible, un peu plus loin. Et si on s'arrête à 1 Samuel 17, Goliath est un monstre qui a l'air d'être isolé. On dirait que c'est le seul. Dans son cas, il y a toute l'armée des Philistins, puis il y a Goliath qui sort du lot. Mais si nous lisons le deuxième livre de Samuel, au chapitre 21, le voile se lève un peu sur la réalité de l'ennemi qui était en face. Goliath n'était pas seul. Il avait une famille. Il avait 4 frères ou des descendants directs. Tous aussi terrifiants que lui, issus d'une même lignée de géants dans la région de Gath. Quand David se baisse dans le torrent, il ne se prépare pas seulement pour un problème visible, celui de la journée, aller affronter ce grand monstre-là qui nous insulte. On pourrait penser, a posteriori, que sous l'inspiration de l'esprit, il se prépare à exterminer toute la lignée de l'oppression. Il prend un caillou pour Goliath et 4 autres pour le reste de la famille, si jamais eux aussi osaient traverser la vallée. On pourrait le penser, a posteriori, parce que nous avons une lecture bien humaine. On lit des livres, on regarde des films, on échafaude des scénarios, et on se dit, ah, en fait, il y avait pensé. Il y en avait d'autres, alors je prends d'autres cailloux. Ça n'est pas écrit. Pourquoi est-ce qu'il a pris 4 cailloux? C'est une leçon magistrale sur ce qu'est la vraie foi, en fait. Dans nos familles, dans nos milieux, on s'imagine parfois que la foi, ça consiste à, comme je disais tout à l'heure, croiser les bras en attendant un miracle, alors que la foi, et nous l'avons entendu la semaine dernière, la foi n'exclut jamais ni la sagesse, ni la préparation, et encore moins l'action. Être une femme ou un homme de foi, c'est être un bon soldat, chacune et chacun, avec ses dons et dans sa spécialité. Alors David, avec son expertise de berger, a fait le choix minutieux de prendre des pierres polies, lisses, parfaites, pour l'aérodynamisme de sa fronde, au service de sa confiance en Dieu. La foi, c'est ramasser nos cailloux, nos talents, notre travail, nos compétences, nos préparations, les temps de formation que nous avons eus, et de dire, Seigneur, voilà tout ce que je peux faire à mon niveau, voilà ce que tu m'as permis d'apprendre, et maintenant j'abandonne entre tes mains le nombre de pierres qu'il te plaira d'utiliser. La suite de l'histoire nous montre la disproportion glorieuse entre nos efforts humains et la grâce divine. David, lui, il plonge la main dans son sac. Il ne prend pas une poignée de pierres pour les lancer. Il n'en prend qu'une seule. Il utilise une arme qu'il utilise tous les jours pour protéger ses troupeaux. Il fait tournoyer la fronde, le projectile part et le géant s'écroule face contre terre. Bon, on ne va pas le mimer, hein, même si on avait des acteurs formidables tout à l'heure pour le faire. Regardez cette économie d'énergie. Une pierre, un lancer, un géant par terre. Là où nous pensons qu'il nous faudra des mois parfois, des mois d'efforts acharnés, des ressources infinies ou des stratégies humaines complexes, pilotées par l'intelligence collective, pour terrasser les crises qui nous paralysent, Dieu vient nous prouver qu'en un seul instant, sa faveur nous suffit. Et observons la précision. La pierre s'est enfoncée exactement dans le front de Goliath. C'était la seule faille dans son armure de bronze, le seul centimètre carré laissé à découvert. Ce n'est pas simplement par la force du bras démultipliée par sa fronde qui a guidé à bonne vitesse ce projectile. C'était le doigt du Dieu vivant. Quand nous mettons le peu que nous avons entre les mains du Seigneur, sa grâce applique notre effort exactement là où l'ennemi est vulnérable. Mais alors, qu'est-ce qu'il a fait des autres cailloux? Bonne question. Sont restés là, au fond, dans la gibecière, pour un ours, pour un lion, quand David allait retourner à ses occupations de berger. Entre-temps, notez quand même que l'image que nous avons d'un David qui est un peu faible par rapport à ce Goliath, il est quand même allé lui piquer son épée ensuite pour lui trancher la tête. Donc c'était quand même l'épée du géant avec toutes les proportions qu'on imagine. Tous ces cailloux, en plus, peuvent représenter le surplus de nos inquiétudes. Combien de nuits passons-nous à élaborer des plans B, ou C ou D à notre premier plan A. Nous pouvons accumuler des cailloux d'anxiété en nous demandant comment nous allons survivre si la première solution échoue. Mais quand Dieu intervient, sa délivrance est si nette que nos plans de secours deviennent instantanément obsolètes. Par contre, d'un autre côté, ces quatre cailloux représentent aussi la provision de Dieu pour l'avenir. Il nous rappelle que si d'autres géants se lèvent demain, la réserve de grâce n'est pas épuisée. Et symboliquement, l'histoire nous prouve que ces géants se sont effectivement levés des années plus tard. Regardons de plus près le portrait de ces quatre monstres que la maison de David a dû exterminer au fil des ans. Car ils décrivent exactement la nature des oppressions psychologiques et spirituelles qui nous attaquent encore aujourd'hui. J'apporte une petite parenthèse sur l'importance des prénoms dans la Bible. Régulièrement, nous avons la définition des prénoms. Alors, il y a les innombrables noms qui sont donnés à notre Seigneur, avec une signification, parce que c'est une de ses facettes de son caractère. Mais il y a aussi pour Sarah, Abraham, Jacob, et puis plus tard, dans le Nouveau Testament. Pourquoi est-ce qu'on appelle un tel par tel prénom? Pourquoi un tel change de prénom? Il y a des significations derrière. C'est un aspect important et central dans les Écritures. Et nos quatre géants de 2 Samuel 21 ne font pas exception à la règle. Nous en avons un premier, Jibi Benob. Il portait une armure neuve et une lance de 3,5 kg. Et quand attaque-t-il? Pas pour venger Goliath juste après, l'armée avait été mise en déroute. Le texte précise qu'il attaque David quand David est fatigué, beaucoup plus tard. Il n'a pas attaqué le David qui était fougueux, qui était rempli de l'esprit, qui était en colère même contre ce géant qui insultait son Dieu. Il va attendre et il s'était fait un objectif de battre et de faire tomber David. Il attend que David soit un roi vieillissant, épuisé par les guerres, les fardeaux de la vie et les trahisons familiales. C'est un géant, c'est le géant de l'opportunisme et de la fatigue spirituelle. C'est le combat qui surgit quand vous êtes à bout de force, quand l'ennemi sort une armure toute neuve. Pourquoi préciser qu'il avait une armure neuve? Lui, il arrive, il est préparé, il attend, et quand on est fatigué, il vient s'en prendre à nous. Tu as combattu pendant des années, David, mais cette fois-ci, tu vas tomber. Et nous en avons un deuxième, Sap. Son prénom signifie le seuil, la limite. Il affronte Israël dans un lieu confiné, appelé Gob, qui signifie la fosse. Lui, c'est le géant qui se tient à la porte de notre prochaine saison spirituelle, de nos projets, de notre appel. C'est la barrière invisible qui se dresse devant nous pour nous dire « Toi, tu es allé assez loin dans ta marche avec Dieu ». Tu as atteint un plafond que tu ne dépasseras pas. Je te mets des limites, tu vas rester bloqué dans cette fosse. Et nous en avons un troisième, l'ami. Le premier livre des Chroniques nous dit explicitement que l'ami était le propre frère de Goliath, armé d'une lance massive comme une poutre. Le détail marquant ici est linguistique. L'ami vient de la même racine hébraïque que Léhem, qui signifie du pain, comme dans Bethléhem. La maison du pain. L'ami, lui, était une contrefaçon. Il s'appelle mon pain, mais il n'apporte que la famine, la terreur et la ruine. C'est le géant qui va s'attaquer directement à notre subsistance, à notre gagne-pain, à nos finances ou à nos paix intérieures, en essayant de piétiner nos récoltes et nos efforts. Et il y en a un quatrième, qu'alors lui, on ne peut pas passer à côté, on va s'en souvenir. Lui, il avait 24 doigts, 6 à chaque main et 6 à chaque pied. Et en principe, quand on a un handicap ou quelque chose qui est particulier dans notre physique, eh bien on peut être mis en difficulté en termes de motricité, par exemple. Et lui, pas du tout. Pas du tout. On se rappelle que dans les Écritures, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme, de l'imperfection charnelle. Et ici, nous voyons une hyper-incarnation de cette force humaine, une anomalie disproportionnée. Et que fait ce géant? Le texte dit qu'il insulte Israël. C'est un sport national, déjà à l'époque. Il utilise la guerre psychologique, la complexité, le complexe d'infériorité pour paralyser le peuple par la honte. Il est l'image de ces situations qui affichent une supériorité écrasante et insolente pour nous faire taire et nous pousser à abandonner. Alors regardons comment se terminent les histoires de ces quatre êtres exceptionnels. Le premier est terrassé par Abishai. Saph, lui, est abattu par Sibéchaï. L'ami va tomber sous les coups de Elkanan. Et le géant aux 24 doigts est éliminé par un Jonathan, le propre neveu de David. Et la Bible résume cela en une phrase puissante sur laquelle c'est intéressant de s'arrêter. Ces quatre hommes tombèrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. David n'avait affronté personnellement que le premier, Goliath, avec son premier caillou. Il n'a jamais croisé le fer avec les autres. Et pourtant, l'Écriture dit qu'ils sont tombés par la main de David. Pourquoi ? En terrassant le premier géant au nom de l'Éternel, David a comme brisé le mythe de leur invincibilité. L'audace de la foi, elle est contagieuse. David a montré l'exemple. Il a libéré un courage qui est transmissible, qui a équipé ses compagnons et la génération suivante. Ce n'est pas une fatalité de rencontrer des géants. On peut les terrasser. Symboliquement, ces quatre cailloux restants n'ont pas été perdus. Ils sont devenus comme un héritage de victoire. Mais ne nous trompons pas de héros dans cette histoire. Dans cette vallée, nous ne sommes pas David. Nous sommes l'armée d'Israël, tremblante dans ses tranchées et incapable de se sauver elle-même. David, lui, est l'ombre, le reflet du véritable roi. Jésus-Christ est descendu seul dans la vallée de ce monde. Face au géant du péché, de la condamnation et de la mort, il s'est avancé à notre place. Le véritable caillou qui a terrassé l'ennemi ne venait pas du sol, il venait du ciel. Par un seul acte de grâce, son sacrifice unique et parfait à la croix, Jésus a brisé définitivement toute la lignée des adversaires. En s'écriant à la croix, tout est accompli. Alors, quels sont les visages que prennent nos géants aujourd'hui ? Est-ce que le Goliath de la maladie, celui de la fatigue, celui qui bloque notre avenir, celui qui nous menace dans nos ressources, est présent aujourd'hui ? Se manifeste-t-il ? Peut-être arrive-t-il à plusieurs, de toutes parts ? Je me regarde ce matin en me levant et je me dis mes ressources sont trop faibles. Et je dois faire l'effort de me rappeler que le combat appartient à l'Éternel. Mais après, on se met en action. La part est à l'Éternel, mais je me mets en action. Alors je ramasse mes cailloux. J'étudie, je travaille, je prie, je me prépare. Et je transfère cette confiance absolue dans ses moyens humains ou vers l'œuvre unique de Jésus. Non, les moyens restent des moyens qui sont mis au service de Jésus. En triomphant de notre premier défi par la foi, nous n'obtenons pas seulement une victoire pour nous-mêmes, nous ouvrons une brèche pour transmettre une onction et donner à nos enfants, à notre famille, à notre Église le courage de faire tomber tous les suivants. Je vous invite à prendre quelques instants pour examiner c'est qui les géants en ce moment. Et est-ce que je me suis préparé ? Et si je ne les connais pas, si je ne les connais pas encore, comment je me prépare pour quand ils vont arriver ? Il y en aura. Les Écritures nous enseignent que les épreuves vont arriver. Les épreuves sont certainement déjà là, et il y en aura d'autres. Mais ces épreuves sont là pour nous apporter, nous l'avons entendu la semaine dernière pour ceux qui étaient là, la patience, l'espérance, la foi. Alors nous ne restons pas là à ne rien faire et attendre. Nous ne laissons pas l'ennemi insulter notre Dieu, insulter nos frères et sœurs. Nous nous préparons, nous allons ramasser nos petits cailloux, nous faisons peut-être une réserve et nous sommes prêts. Je vous invite à prier, à prendre un temps. Vous pouvez prier à haute voix, tout en gardant à l'esprit ce que le Seigneur vient de nous apporter.